Bonjour tout le monde, c'est Jacques pour votre magazine du Tarn sur CFM Radio. Bonne rentrée aux concernés en ce jeudi, qu'ils soient élèves, professeurs, parents d'élèves aussi, hein, dont la routine hebdomadaire change par rapport aux dernières semaines. Bon courage à tout le monde. Au programme aujourd'hui, je ressors de mes archives récentes un entretien avec Monsieur Jean-François Coran, qui est le maire de la commune de Losse-en-Goële, une commune du Pas-de-Calais, et qui est aujourd'hui présenté comme étant le fer de lance, le premier de cordée en matière de transition énergétique. Une commune qui partage beaucoup de points communs, par exemple avec Carmaux, hein, ancienne cité minière, qui a aussi subi de plein fouet une crise économique et sociale suite à la fin de l'exploitation minière. Et avec lui, nous évoquons la manière et les moyens qui ont permis à cette ville de moins de 7000 habitants de devenir un exemple, hein, en France, voire en Europe, dans la concrétisation et la mise en place de solutions plus vertueuses, que ce soit pour ses habitants, leur environnement ou pour notre climat. Je l'avais interviewé fin juin en marge d'une conférence qu'il donnait à Albi sur le sujet des villes rurales sur le chemin de la transition écologique et énergétique. Il était invité alors par le pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides. C'est intéressant, inspirant et édifiant, mais tout d'abord un chouïa de musique avec Canine et le titre c'est Twin Shadow. Is clear. My feet move after solidly. I know my aim, the night's game. All the same, it can happen. When I research, breathing the sweet heat from wrapping myself, supporting my feet. I raise my C'était Canine à l'instant dans le Mac du Tarn sur CFM Radio. Et pour le titre, c'est Twin Shadow que je vous ai proposé. Allez, on parle d'environnement maintenant avec monsieur Jean-François Caron, le maire de Los Angoël, une commune qui est exemplaire en matière de transition écologique et énergétique. Il était à Albi au mois de juin dernier, invité par le pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides. Et nous nous sommes entretenus sur les moyens qui ont été déployés par cette petite ville de 7000 habitants du Pas-de-Calais en matière de transition écologique.
CFM Corde, le MAG.
Bonjour Monsieur Caron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un élu écologiste et voilà 20 ans maintenant que vous êtes maire de Los Angoël, une commune frappée par diverses crises sociales à la fin de l'exploitation minière. S'il fallait présenter sommairement votre ville, que nous diriez-vous? La carte d'identité en quelque sorte de Los Angoël, Monsieur Caron, s'il vous plaît.
Alors, je dirais 9 puits de mine hein, qui ont tous fermé, bien sûr. Beaucoup de cités minières. Les sols ont baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Et du coup, on a un certain nombre de séquelles sur nos réseaux d'eau, sur l'habitat. Voilà. Et donc, on présente beaucoup de difficultés liées à la fin d'une extraction qui a créé des richesses, mais qui nous laisse... pas mal de problèmes, et puis aussi à côté de ça quand même 800 hectares de grandes cultures parce qu'on a des très bonnes terres, un climat favorable pour l'agriculture, et donc c'est un mélange entre une ville très ouvrière et avec encore une part d'agriculture non négligeable.
L'abandon du charbon qui vous pousse en quelque sorte à réfléchir et à mettre en place un modèle plus vertueux, la concertation est au cœur de tout cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, la caractéristique du système minier, c'est que les houillères encadraient tout. Elles fournissaient le logement, la sécurité sociale, les stades, les églises appartiennent aux houillères. Pendant longtemps, les clubs de foot étaient les clubs des houillères. Donc du coup, on a gardé un modèle où la société est très encadrée. On est très différent de ce qui se passe chez vous, où il y a beaucoup de ruralité, d'autonomie des villages, des personnes, et d'ailleurs parfois plus d'individualisme que chez nous. Mais par contre, chez nous, s'il y a du collectif, ça c'est sûr, du sens de la fête, du sens du courage, donc il y a des valeurs. Mais il y a aussi des difficultés à reprendre son destin en main, parce que le travail arrivait par la mine et que tout était structuré. Et donc, effectivement, redonner une perspective pour un projet de territoire, un projet à l'échelle de la commune, ça passait par redonner aux gens de ce qu'on appelle du pouvoir d'agir. Et donc, on a multiplié depuis 20 ans tout ce qui permet aux habitants de reprendre prise. Alors, il faut rentrer un peu dans les détails, on n'aura pas le temps là, mais ça se contente pas, il s'agit pas de se contenter de faire des réunions publiques pour dire aux gens ce qu'ils veulent. Parce que ça, il y a un piège à cet endroit-là. D'ailleurs, moi, j'ai une formule un peu cash, hein, qui dit participation sans responsabilisation égale piège à con. C'est-à-dire que si c'est juste à demander ce que les gens veulent, ils vont lever la main et puis il va y avoir une liste de doléances, voilà. Donc, par contre, on multiplie les processus d'implication. C'est-à-dire que, par exemple, on refait une route, on la construit avec les habitants. Il y a des choses qu'on peut pas discuter, la largeur de la route, par exemple. Par contre, est-ce qu'on met ou pas une piste cyclable, des parkings, des arbres? Ça, on le fait dans un travail avec les habitants. On a multiplié les 50-50, c'est les projets à l'initiative d'habitants qui se rajoutent au programme de la ville et sur lequel on signe une charte. Voilà ce que va faire la ville et voilà comment les habitants eux-mêmes vont prendre leur part. Par exemple, la ville ramène des jardinières et met les fleurs au mois de mars et les habitants les désherbent et les arrosent. Voilà. Et donc, tout est organisé de cette manière, ce qui fait qu'on a des indicateurs de participation citoyenne très hauts, doubler le nombre d'associations, par exemple, en un mandat. Et du coup, ça développe de la puissance d'action dans la commune.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des projets les plus emblématiques hein, en matière de transition écologique qui ont vu le jour depuis 20-30 ans sur la commune de Los Angoël?
Alors, il y en a beaucoup, puisque c'est sur tous les registres. Il y a eu 15 kilomètres de trames vertes qui ont été reconstruits dans la ville, l'itinéraire piéton cycliste, l'éco-construction, c'est-à-dire la réhabilitation thermique des maisons et du neuf, c'est depuis 1997 et aujourd'hui on a plus de 10% de la population qui paye plus de chauffage parce que les bâtiments sont basse consommation, donc ça a généré une filière économique d'ailleurs, un pôle de compétitivité, un pôle d'excellence sur le bâtiment durable. On peut citer la bascule du modèle agricole avec dans 2 ans, parce que ils sont actuellement en conversion, mais dans 2 ans, on sera à 40% de surface agricole en bio et un retour vers une agriculture locale, alors que vraiment, on était dans de l'agriculture industrielle, tout ce qui est plus typique. Un projet qui est très emblématique, c'est le plan solaire citoyen, puisqu'on a commencé à développer du solaire au sol, en centrale solaire, puis on a fait l'église en solaire, première église de France, et on l'a fait avec la communauté catholique, comme j'expliquais tout à l'heure, en co-construction. Ensuite, on a monté une centrale citoyenne, et on a 120 familles qui ont mis une part de leurs économies, préférant mettre leur argent là qu'à la caisse d'épargne, par exemple, parce que ça sert le développement de la commune. Et donc, avec cette démarche de centrale citoyenne, on vient de finir toutes les salles de sport et toutes les salles culturelles de la ville en solaire. Et tenez-vous bien, on a trop d'argent. Et donc, on est en train de chercher des toitures. Et voilà, l'un de nos rêves serait d'être la première ville intégralement couverte de solaire, alors que finalement, on est au nord de la France. Et il y a quand même, on peut le reconnaître, hein, un peu moins de soleil que chez vous. On est zéro phyto depuis une vingtaine d'années. On a transformé nos friches en lieu de loisirs. On travaille beaucoup la question de la mémoire collective, de notre héritage culturel. Et au lieu de s'excuser d'avoir participé à l'aventure industrielle de la mine, on a porté l'inscription au patrimoine mondial. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré en contact de manière plus fine avec votre territoire, puisque la ville d'Albi a son abbatiale au patrimoine mondial. Et moi, je suis devenu président national d'ailleurs des sites UNESCO en France, et avec cette idée que le classement du bassin minier au patrimoine mondial redonne de la dignité, de la fierté au monde de la mine, et amène à regarder une histoire en se disant que finalement, l'histoire des mineurs vaut celle des rois. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la question de comment les habitants peuvent reprendre prise, c'est clé dans la période actuelle. La transition, c'est bien sûr, on a besoin des sciences de l'ingénieur. Le solaire, c'est mieux que le charbon, et les avancées technologiques, elles sont bonnes à prendre. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, il est, est-ce qu'on va arriver à se désarimer d'un modèle de toujours plus de tout, plus vite, plus grand, plus puissant, consommer plus? Et est-ce que c'est logique d'aller pour 30 euros faire un aller-retour au Portugal en avion? Non, c'est pas logique, c'est pas responsable. Et donc, on voit que le sujet, c'est vraiment comment on reprend en main la question de notre modèle de développement. Et pour ça, eh bien, il faut une population impliquée et qui n'est pas juste dans une posture de consommer, mais bien de re-questionner qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. D'ailleurs, juste pour finir là-dessus, la crise du Covid est intéressante de ce point de vue-là. Elle a beaucoup d'éléments très, très négatifs, bien sûr, des décès, des maladies graves, mais elle nous amène à réfléchir qu'est-ce qui compte vraiment. Et à Los Angeles, finalement, un peu là-dessus qu'on a bâti notre projet de territoire.
Alors, je reviens vraiment sur une manière de fonctionner que vous avez abordée il y a quelques minutes, c'est le 50-50, une idée que vous avez été allé puiser en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi cela consiste ?
Alors, effectivement, moi, j'avais vu en Allemagne, à Hanovre, des expériences d'habitants qui géraient des petits espaces verts de pied d'immeuble. Ils appelaient ça du 50-50. Et c'était très, très sympathique. Ça créait de la convivialité entre les personnes. Finalement, les espaces, plutôt que de tout mettre en pelouse, c'était pas forcément idiot d'y mettre des petits carrés de légumes, etc. Quand en tant que maire, j'étais saisi d'habitants qui demandaient plus, mais ce que je comprends, j'étais toujours obligé de leur dire, écoutez, ce que vous me proposez, c'est du travail en plus de ce qui existe déjà, sachant qu'on est dans des communes très pauvres, on n'a pas les moyens On n'a pas les moyens fiscaux de Neuilly ou de la Côte d'Azur. Hein. On en est à des années-lumière. Et donc, du coup, le sujet, c'était toujours, est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour augmenter la capacité d'action de la ville? Est-ce qu'il faut arrêter un certain nombre d'activités? Mais quand on les regarde toutes, elles sont quasiment toutes incontournables. Et j'étais toujours en difficulté jusqu'au jour où l'un des habitants dit « Mais vous savez, monsieur le maire, moi, je peux donner un coup de main, je suis à la retraite. » Et là, je me suis dit « Mais pourquoi pas reprendre ce projet d'Hanovre et le mettre en adaptation chez nous ?» Bon, donc on a travaillé cette question-là. Donc concrètement, ça veut dire… Alors on en a fait une cinquantaine à ce jour. Concrètement, ça veut dire il faut que ce soit un groupe d'habitants, c'est pas un habitant isolé, il faut qu'il y ait un petit collectif, pas forcément une association, ça peut être des riverains d'un quartier, qui pose une proposition. Alors, par exemple, ça a été des jeunes pour refaire le vestiaire en peinture avec des peintures, des dessins qui leur conviennent. Par exemple, c'est la réfection des chemins agricoles avec les agriculteurs où la ville fournit les matériaux et le rouleau et les agriculteurs font le transport des matériaux et les étalent. Par exemple, c'est du fleurissement dans des quartiers ou dans des... Ou encore la construction d'un petit clubhouse dans un endroit où il y avait de la place et où il n'y avait pas de nécessité, mais de le faire parce que la ville est équipée. Mais les clubs, les associations se sont réunies en disant si on se met tous ensemble, on peut faire un clubhouse. Et je donne quelques exemples là pour montrer que c'est du quotidien. Et donc, à partir du projet de ces habitants, on se réunit. On pose tout sur la table, donc ça prend plusieurs séances de construction. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens de comprendre qu'il y a des enjeux financiers, qu'il y a des enjeux de règlement, de normes, que par exemple, pour des raisons d'assurance, on ne peut pas faire une jardinière en parpaing parce qu'on sait maçonner le parpaing, parce qu'elle n'est pas aux normes. Si un enfant se blesse sur un angle de la jardinière, on va rentrer dans une complexité terrible avec les assurances. Bref, ça permet aux gens de se former, si l'on peut dire, à l'action publique. Quoi. Et pourquoi ça prend du temps? Pourquoi ça coûte de l'argent? Donc c'est intéressant parce que ça transforme les habitants de rentrer dans l'action. C'est intéressant parce que ça les met en posture d'acteur. D'ailleurs, on a développé ce qu'on appelle les bâtisseurs de l'os, c'est-à-dire des gens qui ne nous soutiennent pas forcément politiquement, ce n'est pas une adhésion politique, mais des gens qui donnent du temps pour leur ville. Et en fait, on s'est rendu compte que très très vite, ça faisait des centaines et des centaines de personnes qui s'investissaient. Et donc, c'est 50-50, quand on a élaboré à la fin le projet, on signe une charte. Et il y a ce que va faire la ville et ce que vont faire les habitants. Alors, bien sûr... je ne fais pas tondre aux habitants de la commune le terrain de football. Je ne fais pas nettoyer les rues aux habitants. C'est-à-dire que la ville fait son travail. Mais c'est à chaque fois qu'on va avoir une envie d'aller plus loin, nous, on considère que c'est une ressource, une chance, et on essaye d'y mettre les moyens. Alors, évidemment, on a quand même la limite du budget, mais il y a énormément de petites choses qu'on peut faire et qui coûtent pas cher. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans tous les quartiers, on a maintenant des gens qui se sont impliqués pour leur ville. Et finalement, eh bien, ils en sont fiers. Il y a un meilleur respect. Par exemple, le commissaire de police m'indiquait qu'on a 4 fois moins de plaintes entre voisins que dans les communes autour, qu'on a quasiment pas d'incivilité par rapport aux communes autour, on n'a aucune attaque sur les écoles, on n'a pas de tag, on n'a pas d'abribus cassé, comme ça peut se trouver dans d'autres villes. Pourquoi ? Parce que les habitants sont associés à la construction d'espaces publics. Et donc, c'est un peu leur affaire. Et du coup, il y a toute une série de pratiques qui sont plus vertueuses, finalement.
Aujourd'hui, votre ville est considérée comme étant un modèle de transition écologique. Des élus et même Emmanuel Macron sont passés vous voir. Vous pensez que ce système est facilement transposable ailleurs?
Alors oui, vraiment oui. On a travaillé avec les autres villes en transition avancée en France, à Grande-Synthe, Le Menay en Bretagne ou en Sartoux. Voilà, il y a un certain nombre de villes qui ont déjà fait des effets de démonstration, qu'on pouvait vivre sans les pesticides, par exemple. Voilà, et on pourrait prendre plein d'exemples. Et on a travaillé ce qu'on appelle un code source. Donc le code source, c'est finalement essayer de modéliser les méthodes qu'on emploie et qu'est-ce qui fait que ça marche. Et ce code source qui a été travaillé avec des experts, des évaluateurs, des chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs qui viennent à Los Angeles puisque ça devient un terrain d'expérience à beaucoup d'égards. Et donc, à partir de ce code source, avec l'ADEME, l'agence de l'État, on a entamé un travail de test auprès d'un certain nombre d'autres villes en France qui avaient des avancées, peut-être moins globales que celles de Los Angeles, mais quand même. Il donne un petit peu les clés. Alors là, ce serait long de le détailler, mais ce qu'on peut dire très vite, c'est que la première chose à faire, c'est que de ne pas renier son histoire et de partir de son système de valeurs, de sa culture, et de la reconnaître, pour pouvoir se transformer, on ne peut pas se renier. Et donc la question culturelle, au sens large, hein, pas au sens artistique, mais elle est importante. Ensuite, il faut des individus qui s'engagent. Les pas de côté, c'est toujours les individus qui le font. Les organisations, elles vont suivre. Donc ça veut dire comment on assume qu'on va avoir des pionniers, et les pionniers en transition, finalement, on les regarde comme des précurseurs et non pas comme des déviants. D'ailleurs, à leur époque, Christophe Colomb ou Einstein étaient regardés d'abord comme des déviants. Et puis, quand ils ont réussi, on les a regardés comme des magiciens. Bon, cette question de la dimension humaine, de l'implication, elle est importante. Mais ce sont des leaderships coopératifs. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des leaderships surplombants parce qu'on ne peut pas décréter la transition. Ça va requérir la mise en mouvement de tout le monde et ça ne se fait pas par décret. Ça, c'est le socle. Et les quatre piliers de la réussite, c'est 1, l'implication habitante, donc j'en ai parlé. 2, raisonner de manière systémique. Alors, c'est un gros mot, mais ça veut dire de manière transversale. À chaque fois qu'on prend un choix, on regarde ses impacts sur le plan de l'environnement, du social et de l'économique, ce qui veut dire que ça va obliger à travailler de manière différentes, par exemple dans les mairies, et à être beaucoup plus transversales. Donc c'est un management différent. Enfin, dans l'entreprise, on connaît ça, hein, mais le mettre en œuvre, c'est pas si simple. La troisième dimension, c'est que si on est en transition, ça veut dire qu'il va falloir inventer, qu'il va falloir innover. Et donc, il faut créer une culture favorable à l'innovation. Une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc comment créer les conditions de la désobéissance et comment créer les conditions du droit à l'erreur? Parce que si c'était sûr, ce ne serait plus une innovation. Une innovation, c'est une prise de risque. Donc ça veut dire que les questions de confiance, alors je n'ai pas le temps de détailler là, je le ferai mardi, mais sont centrales. Et puis l'innovation, elle monte en puissance. Au début, on a fait des décorations sur les terris avec du land art. Puis on a créé une école de parapente. Puis ils ont été inscrits au patrimoine mondial. Et maintenant, les présidents de la République veulent grimper à la pointe, que ce soit Hollande ou que ce soit Macron. Et finalement, les terris, qui étaient un peu le symbole de notre mauvaise image, deviennent nos étendards et nos totems. Après tout, ce sont des montagnes qui ont été faites à main d'homme. Donc le troisième pilier, c'est l'innovation. Apprendre à oser. Et le quatrième pilier, c'est celui auquel je tiens le plus, c'est ce que j'appelle la parabole l'histoire de l'étoile et des cailloux blancs. Ça veut dire qu'on a besoin d'étoiles qui brillent dans le ciel et qui nous font envie. Pourquoi? Parce que la transition va réclamer de l'engagement, va réclamer qu'on s'implique. Donc ça va réclamer de l'énergie. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut mettre de l'énergie pour du changement? C'est la peur ou le désir. La peur, c'est si un ours vous court après, vous allez courir très très vite. Mais vous allez fuir, donc vous n'allez pas construire. Par contre, le désir peut permettre de construire. Et l'image que j'utilise toujours, c'est que si vous êtes amoureux, vraiment amoureux, eh bien, vous êtes capable de faire le tour de la Terre pour aller rejoindre votre amour. Ça veut dire qu'en matière de transition, plutôt que de le prendre par la morale et la contrainte, ce qui est le piège, il faut le prendre par le désir et mettre en désir, par exemple, une ville qui serait intégralement couverte de capteurs solaires et qui devient autonome en énergie. Et ça, c'est de la mise en désir. Donc, on a besoin d'étoiles qui brillent dans le ciel. Mais si on ne peut pas accéder à ces étoiles, alors ça va nous provoquer de la frustration, de la colère, parce que ce n'est pas pour nous, l'étoile. Et donc, on a besoin de cailloux blancs qui balise le chemin vers l'étoile. Finalement, l'étoile et les cailloux blancs, ça veut dire réhabiliter le rêve, l'envie, le désir, et donc donner un cap, une vision, Mais avec les cailloux blancs, on est dans le concret, on est dans la preuve. Et à Los Angeles, qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Ben, on n'a pas réglé tous nos problèmes, bien sûr, mais on a repris prise sur notre destin. Alors en plus, notre destin était tellement malmené, c'est beaucoup plus tranquille chez vous. Je peux vous le dire que pour commencer à connaître votre territoire, qui est très agréable, très accueillant, enfin moi je m'y sens bien. Mais on voit bien qu'il n'y a pas une conscience aiguë des problèmes comme nous on les a, compte tenu des crises graves qu'on a traversées. Et donc, l'idée de reprendre prise, de baliser des cailloux blancs petit à petit, la première centrale solaire, alors l'étoile, bah, ça, oui, c'est la ville solaire, le premier caillou blanc, c'était la centrale au sol, le deuxième caillou blanc, c'est l'église, le troisième, c'est les salles de sport, le quatrième, c'est les habitations qu'on va chercher. Et du coup, tous nos projets sont gérés comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet en même temps d'afficher le long terme et le court terme. Voilà, et donc tout ça donne plein de résultats sur les énergies renouvelables, ça donne plein de résultats analytiques, mais ça donne des résultats plus globaux, comme par exemple le retour de la confiance, confiance en moi-même, confiance en mon voisin, confiance en mes élus, le changement d'image du territoire. Regardez, vous m'appelez, pour une petite ville minière, être interviewé sur une radio Albi, ben, c'est un petit événement, enfin, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 20 ans. Donc c'est du changement d'image, du territoire. C'est des compétences collectives dans la capacité à entreprendre ensemble. Enfin, on pourrait multiplier, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur justement tout ce que ça génère. Voilà. Donc ce code source tel que je viens de le résumer, de l'hyper-résumé bien sûr, on l'a testé dans des villes plus grandes, on l'a testé, je sors d'un gros travail avec le Puy-de-Dôme où on a appliqué tout ça, et le Puy-de-Dôme a sorti un master plan transition sur ces bases-là. C'est extrêmement puissant, ça mobilise les acteurs. Quelque part, on a une forme de... Alors, certains disent de théorème mathématique, non, parce que c'est des sciences humaines, donc c'est plus compliqué que ça. Mais quand même, on a une façon de penser le développement, la transition, et derrière, les réponses technologiques, techniques, elles sont utiles, elles arrivent. Mais elles arrivent sur un territoire qui a changé sa façon de voir. Et d'ailleurs, une phrase que je n'ai pas du tout dite, c'est que pour moi, la solution viendra des territoires. Elle ne viendra pas du global qui est bloqué. C'est le territoire qui peut entreprendre à son échelle, parce qu'on est dans le concret des gens. Et à partir des leçons du territoire, ça fait apparaître des nouveaux possibles pour que la transition s'engage. Parce qu'en même temps, elle devient urgente, urgente, urgente. Les dérèglements climatiques en est un exemple, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est une course de vitesse entre est-ce qu'on arrive à rentrer en transition ou est-ce qu'on continue à s'effondrer comme on le voit malheureusement aujourd'hui à l'échelle locale et à l'échelle globale.
Monsieur Caron, bravo pour ce que vous faites pour vos administrés et pour la planète tout entière. Et je vous remercie d'être intervenu sur CFM Radio.
Merci beaucoup.
Une interview à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Si, par exemple, vous nous avez rejoint en cours de route, les infos arrivent sur CFM Radio dans l'immédiat.